RCF.
L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, il est l'heure de revenir sur les informations à retenir de ces derniers jours. Plus de places dans nos prisons, c'est ce que propose le ministre de la Défense Jean-Jacques Urvoas pour lutter contre la surpopulation carcérale et les problèmes d'encadrement qui en découlent. Au Mans et à Angers, des mutineries ont eu lieu ces derniers jours, les surveillants, eux, sont à bout. La problématique des déserts médicaux, les Mayennais la connaissent et la subissent tous les jours. Pour y faire face, plusieurs habitants ont créé un collectif de patients sans médecin. Objectif, interpeller les élus locaux à quelques mois des législatives. L'initiative de la semaine nous vient de Vendée. C'est une première en France. Le département à la pointe dans le domaine des énergies renouvelables va encore plus loin. Dernière trouvaille, installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les mâts d'éclairage public. Dans la pause spirituelle, nous reviendrons sur les 30 ans des rencontres d'assises qui avaient lieu cette semaine. Un rendez-vous international pour promouvoir le dialogue interreligieux. Un dialogue nécessaire mais pas évident à mettre en place dans les faits selon un expert ligérien. Et puis pour coller à l'actualité, nous vous proposerons en fin de magazine une sortie cinéma. Qui se cache derrière la figure du pape François? C'est l'intrigue d'un film biographique qui sort la semaine prochaine sur grand écran. Anthony Torzek a assisté pour nous à l'avant-première à Nantes. Voilà pour ce qui vous attend dans cette hebdo région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Et tout de suite, on retrouve Aubery Métro. Bonjour Aubery.
Bonjour Bastien.
Je le disais en titre, les surveillants de prison des Pays de la Loire sont exaspérés.
Effectivement, ils ont manifesté cette semaine, notamment devant la prison des Croisettes à Coulaines, près du Mans. Les syndicats dénoncent leurs conditions de travail après l'agression d'un membre du personnel. C'était la semaine dernière. Vincent Ledimette est représentant du personnel pénitentiaire pour Force Ouvrière.
Il y a un collègue qui a failli être pris en otage par un détenu. Ce détenu déjà tenait en otage une autre personne détenue. Il s'est avancé vers le collègue avec un couteau et donc le collègue a eu le temps de reculer légèrement. Et lorsque le collègue s'est mis en protection derrière la grille, le détenu a essayé de leur mettre des coups de couteau à travers cette grille. Le 4 août, nous avions un collègue qui avait été retenu en otage plus de 3 heures par un détenu. C'est des conditions qui deviennent très compliquées pour travailler. Nous avons beaucoup de collègues qui viennent avec la boule au ventre et chacun se demande qui viendra son tour.
Et la situation est la même partout dans notre région.
À Angers, la maison d'arrêt compterait 362 détenus pour une capacité de 250 places. Une mutinerie a d'ailleurs éclaté le 4 septembre. Les prisonniers ont refusé de rentrer dans leurs cellules pour dénoncer leurs conditions de détention, car les bâtiments sont vétustes et humides. Même constat aussi à Laval et à Fontenay-le-Comte. La densité carcérale est là-bas de 200%. Vincent Ledimette a déjà dénoncé cette situation auprès du ministère de la Justice.
Nous, à la direction, on leur avait demandé des transferts puisqu'on était en surcharge énorme. Il y a effectivement des transferts qui se font actuellement. Les mesures qu'il faudrait prendre déjà, c'est limiter la surpopulation pénale en créant des places de prison. Donc effectivement, on demande l'apport de personnel et une création d'établissements supplémentaires pour qu'on puisse pallier à tous ces matelas au sol et à la surpopulation qui existe. La maison d'arrêt du Mans, ici, c'est 510 détenus qui sont hébergés pour 398 places. Et c'est une trentaine de matelas au sol. C'est un contexte, quand vous avez un surveillant qui doit ouvrir la cellule, il y a 3 détenus, dont un matelas au sol, puis bis repetita, c'est très compliqué à gérer les humeurs de chaque détenu. Les détenus n'ont plus aucun respect et du coup les surveillants n'ont plus d'autorité aujourd'hui dans les prisons.
Face à cette gronde qui monte, le gouvernement a donc annoncé des mesures. Jean-Jacques Urvoas a présenté cette semaine un plan pour lutter contre la surpopulation carcérale.
Le ministre de la Justice lui s'est exprimé de la prison de Fresnes où il était en visite mardi.
Et il a proposé notamment la création de nouvelles cellules entre 10 et 16 000 places d'ici 2025 et plus d'un milliard d'euros pour rénover les établissements. Pour Vincent Ledimette, ce sont des paroles en l'air en période préélectorale.
On est déjà à 13 000 détenus en suroccupation dans nos établissements, donc il y a des choses qui auraient pu être faites avant. Et quand vous voyez qu'une maison d'arrêt, c'est 4 ans pour la faire sortir de terre, c'est très très compliqué. On est très déçus, surtout sur la question des détenus radicalisés, puisque le garde des Sceaux a réaffirmé l'utilité des unités dédiées qu'il a créées. Et nous avions proposé la création d'un établissement spécifique et il est contre ce système.
Et vous, comment est-ce que vous faites pour gérer ces détenus radicalisés?
On les gère au jour le jour, sans pouvoir prévenir leurs faits et gestes. Et donc on n'a pas plus de moyens pour les gérer aujourd'hui. trouvons ça extrêmement grave. Et je pense que prochainement, on sera amené à sans doute se remobiliser.
Et en Pays de la Loire, ces nouvelles places sont prévues avec notamment la construction d'une nouvelle maison d'arrêt près d'Angers à Trélazé. Elle est prévue pour 2023.
Et merci Aubery pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Bastien.
Et toujours dans l'actualité, 200 salariés de la centrale EDF de Cordemais en Loire-Atlantique ont bloqué l'accès à leur entreprise mercredi matin. À l'appel de la CGT, ils ont exprimé leur inquiétude sur l'avenir de cette centrale électrique composée de 2 tranches charbon et 2 tranches fuel. Ces dernières vont d'ailleurs fermer en 2018 et les salariés redoutent l'arrêt d'activité des tranches restantes, celles alimentées par le charbon, ce qui risque d'arriver si le Parlement vote l'instauration d'une taxe carbone. 130 animateurs périscolaires ont manifesté lundi à Angers devant le parvis de la mairie, ce qui a provoqué la fermeture de la moitié des cantines et garderies de la ville. Pour la deuxième fois depuis la rentrée, les animateurs se mobilisaient contre le décret autorisant l'élargissement des taux d'encadrement des enfants, une mesure visant à faire des économies qui, selon eux, mettent en péril la sécurité des jeunes et dégradent la qualité des activités. Quelques-uns ont été reçus par la municipalité. 29, c'est le nombre de personnes tuées sur les routes du Maine-et-Loire depuis le début de l'année, un nombre important quand on sait qu'ils étaient 33 sur toute l'année 2015 et 31 en 2014. Le département devrait donc battre un triste record. Et puis l'entreprise vendéenne Titoc, spécialisée dans la fabrication de plats lyophilisés, vient de signer un contrat avec la Défense pour nourrir les soldats français en mission. La société d'Olonne-sur-Mer a remporté 6 des 11 lots de plats ouverts à la concurrence par l'armée. Un contrat à 1,7 million d'euros.
L'Hebdo Région, rencontre avec...
Direction Laval à présent, où nous attend Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
Il y a des podiums, Samuel, sur lesquels on préférerait ne pas monter, et c'est le cas pour la Mayenne qui fait aujourd'hui figure de 3e désert médical en France. Il faut attendre des mois avant d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Dans le département, on est presque habitué à voir fermer les cabinets médicaux les uns après les autres, mais en cette rentrée 2016, les citoyens ont décidé de réagir.
Oui Bastien, imaginez à Laval, ville de 50 000 habitants, on parle de près de 10 000 patients sans médecin traitant, c'est-à-dire près d'un Lavallois sur 5 qui est aujourd'hui sans médecin de famille. Alors effectivement, une quinzaine de médecins généralistes sont partis en retraite sans trouver des remplaçants. Et la grande question aujourd'hui, c'est comment stopper l'hémorragie, parce qu'effectivement, Laval n'a pas anticipé ces départs massifs en retraite. Et même si on parle depuis des années de création de maisons de santé, la précédente municipalité en parlait déjà, l'actuelle semble y travailler. C'est toujours est-il qu'aujourd'hui, Laval n'est pas doté de ses pôles santé. Les praticiens exercent encore dans des cabinets isolés, c'est-à-dire pas du tout ce que recherchent les jeunes médecins, qui sont, qui plus est dans l'ensemble, beaucoup plus attirés par les grandes villes et les régions ensoleillées que par les départements ruraux comme les nôtres. Et aujourd'hui, c'est donc officiel, la Mayenne est un désert médical et la situation s'aggrave. Alors les Lavallois sont très inquiets et un jeune père de famille, Maxime Le Bigot, vient de proposer d'être leur porte-voix en créant un collectif de patients sans médecin. Je vous propose d'écouter pourquoi il a décidé d'agir après avoir contacté tous les médecins de Laval et de l'agglomération.
Depuis le mois de juillet, notre médecin traitant est parti en retraite après 40 ans de bons et loyaux services, hein, une retraite bien méritée. Du coup, notre fils Lucas s'est retrouvé sans médecin pour son suivi mensuel. Du coup, on a appelé tous les médecins de Laval et Laval agglomération au mois de juin. Ils nous ont dit de rappeler en septembre. Septembre, on a appelé et c'est toujours négatif parce qu'ils veulent pas faire du client, ils veulent faire du patient, ils veulent se consacrer vraiment pleinement à leurs patients. Ils veulent pas avoir des rendez-vous de 5 minutes, ils veulent pas faire non plus des heures considérables, ce qui est complètement acceptable. Il va y avoir une fille de famille, donc voilà, ils nous ont renvoyé vers l'ARS. L'ARS, allez aux urgences pédiatriques pour le suivi de votre enfant, ce qui n'est pas logique, quoi. On va pas encombrer les urgences pédiatriques pour de la bobologie, quoi.
C'est effectivement un conseil totalement ahurissant de l'Agence régionale de santé. Dire aller aux urgences, ça ne règle en rien le problème, ça ne fait que le déplacer. Et c'est pour ça que Maxime Le Bigot a décidé d'agir. Selon lui, la situation est trop grave pour la laisser dans les seules mains des institutionnels. Pour lui, les citoyens doivent se mobiliser. Il a donc lancé un appel dans la presse la semaine passée. Et les témoignages affluent.
Non, certains, très très inquiétants, une patiente qui réduit son traitement de moitié parce qu'elle ne peut pas avoir de médecin traitant pour renouveler son ordonnance, alors qu'elle a deux pathologies quand même importantes au niveau du traitement, donc elle va se retrouver à un moment donné malheureusement aux urgences, hospitalisée, voilà, on augmente les dépenses de santé. Ou une jeune maman de 39 ans, lavalloise, qui, elle, a 3 enfants, la dernière a besoin d'un suivi spécifique, elle se retrouve malheureusement aux urgences dès que sa fille a quelque chose, Elle n'a plus le droit à son aide de vie scolaire, à son tiers-temps supplémentaire, parce qu'elle n'a pas pu avoir de certificat médical pour la maison de l'autonomie, quoi. Donc c'est très inquiétant. Elle attend son orthophoniste depuis 3 ans également. Donc je veux toucher les médecins généralistes, les spécialistes, mais également les professionnels de santé, les orthophonistes, les gynécologues, les ophtalmos, parce que c'est un problème vraiment général pour la santé en général.
Alors le collectif sera créé dans les prochaines semaines et ses futurs membres ont bien l'intention d'obliger les élus à ne plus subir ce désert médical. Ils vont en effet interpeller tous les décideurs pour que attirer les médecins en Mayenne devienne leur principale préoccupation.
C'est voilà, interpeller les élus en place, les candidats aux législatives parce qu'on arrive en période électorale et pourquoi pas les candidats à la présidentielle également, leur position sur qu'est-ce qui peut être fait en Mayenne et au niveau national également pour la démographie médicale, pour éviter le désert médical comme on peut subir dans plusieurs départements. On sait très bien que ça va poser un problème qui va se résoudre dans une année. Malheureusement, je pense qu'on a 6, 7, voire 10 ans devant nous, assez compliqué à vivre, hein, avec le numerus clausus qui est toujours bas, le nombre de médecins qui sortent à la fin de leurs études. Il faut 10 ans pour former un médecin. Donc voilà, c'est quelles sont leurs positions, quels sont leurs engagements également pour lutter contre ce désert médical.
C'était donc Maxime Lebigot, porte-parole du futur collectif des patients sans médecin en Mayenne. Je le rappelle, ils sont près de 10 000 dans ce cas dans la seule ville de Laval. Alors que ne l'oublions pas, l'accès aux soins est un droit fondamental.
Une rencontre qui nous était proposée par Samuel Pécaud. Merci Samuel, on vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine.
Bon week-end et à la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, initiative.
Et pour nous présenter l'initiative de la semaine, nous retrouvons Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une expérimentation menée depuis vendredi dernier à La Roche-sur-Yon.
Oui, c'est une première en France. 3 bornes de recharge de véhicules électriques reliées au réseau d'éclairage public français ont été inaugurées à La Roche-sur-Yon. Ces bornes, baptisées City Charge, ont été imaginées il y a 2 ans et demi par Bouygues Énergie et Services. Elles viennent en complément des bornes classiques mises en place sur le département par le CIDEV. Olivier Mazet, directeur Vendée de Bouygues Énergie et Services, voit 2 aubaines dans ces nouvelles bornes.
La première, c'est qu'on évite de réaliser des infrastructures de génie civil, des travaux de tranchées, de raccordement comme sur une borne classique, hein, donc d'où une économie financière. Et la deuxième chose, c'est que cette borne est directement accessible depuis les places de parking qui se trouvent à côté des mâts d'éclairage public. Là, nous, on est sur des bornes de recharge lente, hein, donc c'est totalement adapté à la personne qui vient garer sa voiture le soir et qui reprend sa voiture le lendemain matin, ou la personne qui a différents trajets à faire et qui, dans le doute, pour rentrer chez elle, qui habite, je sais pas moi, à 35, 40 km ou 50 km de La Roche-sur-Yon, profite d'un achat, profite de faire ses courses, etc., pour recharger sur le domaine public et pour repartir tranquillement chez elle. Puisque en 2 heures, on peut à peu près recharger l'équivalent de 35, 40 km pour se déplacer.
Et donc là, c'est une expérimentation pour l'instant ?
Exactement, voilà. On va mesurer pendant maintenant 6 mois l'influence de la borne sur l'éclairage, puisque on ne doit pas, bien entendu, on doit toujours apporter le même service en termes d'éclairage public, hein, et on apporte un service complémentaire en termes de recharge. Hein, voilà, donc il y a un petit boîtier électronique qui se situe dans le mât, qui permet à l'éclairage public de fonctionner toujours le soir jusqu'au matin ou coupé dans la nuit, ça dépend des communes, et qui permet dans la journée et dans la nuit, bien sûr, de recharger son véhicule.
Et qui, Fanny, peut d'ores et déjà utiliser ces bornes ?
Alors pendant les 2 premiers mois de l'expérimentation, elles sont accessibles aux collaborateurs de la ville de La Roche-sur-Yon, d'ICIDEV, d'Enedis et de Bouygues Énergie et Services. Ensuite, le service sera ouvert aux citoyens qui possèdent une carte de recharge électrique du CIDEV. Et si le test est concluant, l'objectif sera de développer ces bornes sur l'ensemble du territoire français.
Nous sommes des entrepreneurs, des industriels, donc effectivement, à l'issue de ce test, si on voit que c'est concluant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact important sur le réseau, qu'il n'y a pas de problème de dysfonctionnement avec l'éclairage, que les clients sont satisfaits, on va essayer de positionner cette borne de recharge électrique en Vendée et puis dans l'ensemble du territoire français. C'est de l'électronique, donc ça s'adapte à tout type de service dans n'importe quel département, dans n'importe quelle ville. Puisqu'après, on adaptera l'ouverture à la collectivité et aux clients. Parce que ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette borne, elle a toute la technologie et toute la sécurisation d'une borne classique, hein, puisque il y a un badge pour ouvrir la borne avec une porte sécurisée, puisque bien entendu, quand les gens viennent raccorder le cordon de recharge du véhicule et elles viennent refermer la porte, vont s'absenter soit toute la nuit, soit une heure, deux heures. Il est hors de question qu'il y ait des gens qui viennent débrancher ou voilà.
Et au-delà de ces bornes de recharge, Bouygues Énergie et Services utilise les lampadaires comme des objets connectés pour offrir différents usages comme le Wi-Fi, la vidéoprotection ou la sonorisation.
Et voilà, un sujet réalisé par Fanny Brevet. Merci Fanny, on vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, pause spirituelle.
Responsables religieux et politiques étaient réunis en Italie cette semaine pour la paix. Jusqu'à mercredi, environ 400 personnes ont participé aux 30 ans des rencontres interreligieuses d'Assise à l'invitation du pape, à l'occasion d'évoquer la problématique du dialogue entre religions. Maria Goyer a rencontré Malek Chayeb, le responsable du département d'études des religions à la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Il s'exprime sur le sujet.
Entre chrétiens et musulmans, c'est important de dialoguer parce que pour un chrétien, on croit en Jésus-Christ qui est venu dialoguer avec nous. Paul VI disait dans son encyclique, Dieu se fait dialogue. Voilà. Nous, on ne peut pas faire autrement. Hein. Il faut qu'on fasse comme imiter Dieu comme il a fait. Avec les musulmans, il faut dialoguer. Et l'option a été faite depuis Vatican II d'aller vers le dialogue. Le dialogue, il n'est pas si simple que ça. Il est même très, très, très difficile. Et aujourd'hui, on sent la difficulté du dialogue. On a fait un colloque là en mai à la Cato d'Angers sur le thème du dialogue et la recherche de la paix d'ailleurs. À Lyon, il y a eu un colloque aussi sur la difficulté du dialogue. Le dialogue, il est difficile parce qu'il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui ne croient pas du tout à la question du dialogue ou qui accusent ceux qui dialoguent qui sont des personnes naïves. Ça, c'est pas vrai. Mais par contre, ceci dit, il faut être exigeant de dialogue. Il faut un dialogue de en vérité, pas un dialogue de convenance. Le prof François Jourdan qui parlait de ne pas aller de boire du thé à la menthe. C'est bon de boire du thé à la menthe peut-être, d'aller rendre visite, etc. Mais c'est pas ça le dialogue. Il y a d'autres choses pour le dialogue. Parce que le dialogue, il implique aussi un déplacement des deux personnes. C'est pas, j'y vais pas dialoguer avec quelqu'un pour le convertir, ni l'autre il vient pas pour me convertir. On vient pour essayer de se comprendre, d'essayer un peu plus loin. Il faut avoir aussi quand on dialogue une dimension critique, accepter d'être critiqué et que l'autre accepte que je le critique dans la façon dont il pense de moi.
Du coup, vous ne pensez pas que le dialogue interreligieux, le dialogue entre les religions ne concerne qu'un microcosme de personnes extrêmement calées sur le sujet ?
Ça dépend de quel dialogue on parle. Si on parle de dialogue théologique, effectivement, ça demande des personnes qui sont assez compétentes dans ce domaine. Mais si je ne me trompe pas dans le texte Dialogue et Annonce, il cite différentes sortes de dialogues. Hein. Il y a le dialogue de vie. Et ça, c'est chaque personne, là, nos auditeurs, majorité chrétienne, je pense, il vit ça avec les voisins, de pallier. Il y a ceux qui parlent du dialogue du gazon. Voilà.
C'est autre chose que le dialogue du thé à la menthe.
Voilà, j'espère. Disons, le thé à la menthe, il a sa place. Hein? Ça fait, il a sa place, mais il ne faut pas qu'il reste sur ça. Hein? Il faut pouvoir dire les choses en vérité aussi.
Pensez-vous que les religions croient encore à la paix ?
Moi, je ne doute pas. C'est impossible, impossible. Moi, je suis contre cette affirmation comme quoi les religions cherchent la guerre. Mais il peut y avoir des idéologues, je prends le terme idéologie dans un sens péjoratif, hein, qui cherchent toujours une manière à imposer leur manière de penser. Mais on trouve surtout du côté de l'islam politique, quand on parle de frères musulmans, ou les salafis qui deviennent des salafis révolutionnaires, comme Daesh, et qui peut être contre la paix, ou pour la paix qu'ils imposent eux. Je peux dire, pour terminer, il faut toujours garder l'espérance, hein, c'est le cœur de notre foi, et avoir confiance, hein. Prier aussi, parce que la prière, ça peut aider beaucoup à avancer. Ne pas hésiter à entrer en dialogue avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Parce que c'est pas en ayant peur de l'autre que ça va marcher mieux les choses. C'est en dialoguant.
Malek Chayeb, enseignant-chercheur à l'UCO, spécialiste de l'islam au micro de Marie Agoyer. Et puisque l'on parle d'assises, si vous voulez marcher sur les pas de Saint François, sachez que des photos, des peintures murales sur la vie de ce prophète de paix seront exposées pendant les trois premières semaines d'octobre dans la cathédrale de Laval. C'est le peintre Giotto qui a réalisé ces fresques à la fin du XIIIe siècle. Elles sont à découvrir du 1er au 22 octobre. Vous aurez l'impression d'être dans la cathédrale de Laval tout en découvrant la basilique supérieure d'Assise en Italie.
L'Hebdo Région, si on sortait.
Et on parlait de Laval il y a quelques instants. Autre événement à noter, une mosaïque géante intitulée « La porte de la miséricorde » a été posée sur le tympan de la cathédrale de Laval. Elle est visible par tous les passants. De nombreux Lavallois sont d'ailleurs venus cette semaine voir la mosaïste Marie-Noëlle Carigou poser à un ses morceaux de faïence pour un résultat magnifique qui sera inauguré et béni début octobre. On passe maintenant à la sortie de la semaine, la vraie, entre guillemets, celle qui devrait attirer bon nombre de spectateurs dans les salles obscures. Un film sur le pape François sort au cinéma mercredi prochain. Des avant-premières ont eu lieu un peu partout en France et notamment à Nantes la semaine dernière. Anthony Torzek, bonjour.
Bonjour Bastien et bonjour à tous.
Présentez-nous un petit peu ce film sur l'histoire de cet homme qui finalement bouscule l'Église.
Oui, c'est un film argentin. Son nom, c'est très simple, c'est Le Pape François. Il retrace l'histoire de la vie du père Bergoglio, de sa vocation à son élection papale en mars 2013 avec le fameux, évidemment, Habemus Papam.
¿De dónde ha sacado el disparate de que puede ganar Bergoglio?
¡Bergoglio!
Un film espagnol mais également argentin de Dario Garonelli avec également Eduardo Guiana. Le synopsis est très simple, c'est Anna, une jeune journaliste espagnole qui est envoyée au Vatican pour couvrir le conclave de 2005. Elle fait alors connaissance avec le cardinal Bergoglio, l'évêque de Buenos Aires, méconnu du grand public. Une journaliste d'ailleurs qui n'est pas très éloignée d'une personne proche du pape François, qui a vraiment existé. Et c'est de là qu'est venu ce film, les explications d'Hubert de Torcy, c'est le distributeur français de ce film sur le pape François.
Une comédienne espagnole qui joue le rôle de la correspondante au Vatican d'un journal espagnol qui s'appelle Anna dans le film, mais qui en réalité est un personnage véritable qui s'appelle Elisabetta Piquet, qui est effectivement journaliste, mais qui dans la vraie vie est argentine et qui est correspondante du quotidien La Nation au Vatican. Et c'est à cause de cette Elisabetta Piquet que le film voit le jour, puisque c'est le fruit de son livre, en fait. Elle a écrit une biographie, une des premières biographies sur Bergoglio. C'est une des très rares journalistes à avoir pronostiqué en 2003 l'élection de Bergoglio, qu'elle connaissait depuis plusieurs années, avec qui elle avait noué une relation d'amitié très forte. C'est vraiment une amie intime du pape, on peut dire ça. Et en revanche, l'autre comédien, celui qui joue le pape François, c'est Dario Grandinetti, qui est un des plus grands comédiens argentins. Et c'est un acteur, effectivement, un comédien remarquable. Il a le mérite immense de ne pas du tout ressembler au pape François physiquement. Et pour autant, très vite, il est dans la peau du pape, en quelque sorte. Tant et si bien qu'à la fin, on voit le réalisateur se tait le culot de montrer des vraies images du pape François sur le balcon de Saint-Pierre. Et c'est pas qu'on voit pas la différence, mais on voit une véritable continuité entre le personnage qui a été habité, en quelque sorte, par le pape tout au long du film, et puis le vrai pape.
Je vous demande pas si vous avez apprécié ce film, si vous l'avez choisi, c'est effectivement qu'il a touché quelque chose en vous. Quoi précisément ?
Moi, ce qui m'a vraiment touché, ce qui me touche à chaque fois, je le revois, et à chaque fois, ça me fait pleurer, je dois l'avouer, c'est de voir le Christ s'approcher, en fait, dans ce film, à travers cette figure du pape. On voit vraiment le Christ s'approcher pour consoler, pour toucher les gens, pour les réconforter, pour les caresser. Enfin, ça, c'est des mots que j'emploie volontiers au vocabulaire du pape François. C'est vraiment le pape de l'incarnation du toucher. Il vient vraiment rejoindre les gens là où ils sont. Donc il y a beaucoup de scènes comme ça, avec une veuve éplorée, avec une femme qui vient d'avorter, et à chaque fois, on voit vraiment le Christ qui s'approche avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de pudeur, qui vient réconforter, toucher.
Témoignage d'Hubert de Torcy, c'est le directeur de Sage Distribution, le distributeur français de ce film sur le pape François. Le pape François sortira mercredi prochain sur vos écrans et dans la région des Pays de la Loire. Vous pourrez le voir à Angers, au Mans, à Saint-Nazaire, à Guérande, à Cholet, à La Roche-sur-Yon, au Sable d'Olonne et également à Luçon.
Voilà, Anthony, je crois que vous avez tout dit. Merci, on vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Bastien.
Et si vous êtes du côté de Nantes, vous aurez également l'occasion de découvrir ce samedi la nouvelle maison diocésaine inaugurée ce week-end. Elle regroupe l'ensemble des services de l'Église catholique de Loire-Atlantique. Cet immeuble flambant neuf de plus de 3000 mètres carrés situé dans le quartier des facultés accueille les salariés et les bénévoles du diocèse. Une autre structure située à côté hébergera les services du secours catholique. Après la République démocratique du Congo l'an dernier, l'équipe du zoo de la Flèche s'envole aujourd'hui pour la Namibie. Pendant 3 semaines, ils seront aux côtés de Wildlife Angel, une association française qui lutte notamment contre le braconnage des rhinocéros. Ils sont bien sûr suivis par les équipes de France 4, ce qui donnera lieu à une nouvelle émission. Si vous voulez en savoir plus sur le zoo de la Flèche et découvrir les coulisses de la série Une saison au zoo, rendez-vous sur le site internet rcf.fr, rubrique Westeco. Enfin, une dernière information sportive, le champion de France de basket en titre Villeurbanne a remporté cette semaine le match des champions. C'était ce mardi au Vent d'Espace. Il a battu le vainqueur de la dernière Coupe de France, Le Mans, sur le score de 75-71. C'est la fin de cette Hebdo Région. Votre magazine d'actualité vous était présenté aujourd'hui par la rédaction de RCF Anjou avec l'aide des autres rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve la semaine prochaine.